Autour d'elle, les vacanciers bavardaient. Ils offraient leur visage au soleil tout en dégustant d'impressionnantes glaces. Maude consulta le site de Radio France. Elle téléphona. Une standardiste lui répondit et qui lui passa le service des programmes. Pas du tout, lui fut-il annoncé. Non, ce ne sera pas possible. L'Orchestre national de France ne propose rien de tel. Pas plus que l'Orchestre symphonique de Paris. Non, ce n'est pas prévu. Mais essayez donc, lui conseilla-t-on. Voyez donc la maîtrise de Radio France. Peut-être y a-t-il une possibilité de ce côté-là. Ses interlocuteurs, surpris, se montraient serviables et bienveillants. Maude se trouvait un peu stupide et triste également de paraître aussi atypique et bizarre l'original du village en fait. Elle avait dû préciser, elle avait parlé de son désir de musique. Elle n'y connaissait rien, avait-elle expliqué, mais elle voulait découvrir. Elle avait pensé à la maison de la radio. Elle disait pourquoi la solitude ne lui serait dans son cas d'aucune aide. Les gens de radio à l'autre bout du téléphone avaient sans doute été touchés par la petite dame qui appelait on ne savait d'où et qui se trouvait vraiment aux antipodes des riantes et verdoyantes contrées de la culture mélomane. Mais l'innocente dame avait conscience de son ignorance musicale, elle était lucide. Il fallait lui reconnaître cette qualité. Vint le moment où Maude en termina avec la série des appels conseillés les uns après les autres, une conversation préconisée en entraînant une autre, un conseil évoqué en entraînant un autre. Vint le moment où elle avait tout tenté. Elle avait sagement arpenté les moindres recoins proposés par les autochtones du pays de la musique. La conclusion était sans appel. À l'heure des radios numériques, des CD et téléchargements en tout genre, l'écoute des répétitions ouvertes au public était passée de mode. La musique en direct était la seule affaire des concerts du soir. Les mélomanes de l'après-midi écoutaient tranquillement chez eux leurs MP3 ou leurs ordinateurs sans éprouver le besoin d'être portés par les musiciens en action ni par les auditeurs goûtant au même moment et dans le même lieu la même musique. Maude atteignit le bout de ce chemin qui n'offrait pas d'issue. Le soleil brillait, elle quitta la terrasse, elle marcha encore, elle fit du bateau, puis elle reprit sa marche sans relâche. Jusqu'au moment où elle rejoignit enfin l'appartement. Elle le rejoignit parce qu'elle tenait enfin à sa solution. Elle retrouva les garçons et leur rendit compte de ses réflexions. Elle leur raconta toutes les étapes de ses recherches. Elle n'en éluda aucune. Elle avait à cœur qu'ils connaissent tout de sa quête d'équilibre entreprise ces dernières heures et qu'ils comprennent combien la démarche était importante pour elle. Ils étaient devant elle. Elle les retenait par son récit. « Mes garçons, leur disait-elle, que vous sachiez. » Ces derniers jours, la voile, c'était si bien, alors j'ai réfléchi, j'ai pensé à la musique et j'ai appelé, j'ai compris que ce n'était pas la solution et je me suis souvenu de mon père. J'avais entre 16 et 18 ans. Il était un grand ami de Monsieur Lourtanel, le patron de la patinoire, à deux pas de chez nous, près du lac. Et chaque dimanche, j'y allais à la patinoire, le matin, avec mes deux sœurs. On faisait des tours en musique, on glissait. Eh bien, figurez-vous, ce pourrait être l'équivalent. De la voile, je pourrais renouer avec ce sport, je vais trouver une patinoire à Paris. » Les deux garçons se montrèrent circonspects. « Une patinoire, maman ? Ce sera difficile à trouver. » L'objection fit mouche, il n'avait pas tort, les conditions de mise en œuvre devaient être prises en compte. « Alors quoi ?» leur demanda Maud. « Et les rollers, maman, pourquoi pas ? Ce serait encore mieux que la patinoire, tu pourrais te balader dans Paris. » Quelques secondes s'écoulèrent, qui permirent à Maud, une fois passée la nouveauté de la proposition, de s'y habituer. « Mais oui, pourquoi pas, en fait, c'est une idée. » Et le ciel et les nuages, non, je n'en serais pas loin. Ce serait plus simple, plus naturel que la patinoire et la respiration, oui. Ce ne serait pas mal. Et puis, se risqua-t-elle à ajouter, je serais peut-être assez douée, non? Puisque je tenais debout sur des patins à glace quand j'avais 17 ans. J'y reviens toujours, non? Plaisanta-t-elle à mon père. Bon, c'est adjugé, c'est vendu, conclut-elle. L'intonation de sa voix était à la blague, mais en réalité, elle était sérieuse. « C'est bien !» leur dit-elle. « Je ne reprendrai pas ma vie à Paris comme avant l'été, sans équilibre, en descendant la pente, en tombant aussi fréquemment. Non, j'aurai un pilier, un autre pilier, sans lien aux autres, pour moi seule. » Ni Luc ni Romain n'avaient eu le choix. Ils avaient écouté les circonvolutions mentales de leur mère jusqu'à la conclusion qu'elle souhaitait leur révéler. Ils la connaissaient, elle devait absolument, en cas de vive émotion, leur rendre compte de ses débats intérieurs. Ils ne pouvaient y échapper, elle leur expliquait, elle se rassurait. Elle y gagnait joie et enthousiasme, ils le savaient, c'était ainsi qu'elle les aimait. Tous deux ne manquèrent pas d'échanger discrètement après cette vive et enthousiaste discussion un regard singulièrement perplexe. Ils ne connaissaient certes pas l'avenir. L'exaltation maternelle n'était peut-être pas pure illusion, comment savoir? Peut-être la croiserait-il dans quelques mois, arpentant, telle une championne de roller tractée par son fidèle cocker, les trottoirs de Paris. Il suivrait cette affaire. Il se montrerait à tout le moins curieux et amusé. Quelques jours après son retour de vacances, Maud trottinait rue de Charenton. Elle passait devant l'hôpital des 15-20, puis elle s'engagea dans la rue du Faubourg Saint-Antoine. Elle fut obligée de ralentir. Des piétons encombraient le trottoir, il suffit de certains regards qui se croisent pour que Paris devienne soudain un modeste village de campagne. On sourit, on est surpris, on se reconnaît et l'on s'embrasse. Maud adore cette fugace sensation de voisinage amical. Elle rencontra Violette, qui habitait justement là, rue du Faubourg Saint-Antoine, près de la place de la Bastille. Toutes deux s'étaient connues dans l'atelier d'artiste où l'une écrit et où l'autre peint. Maud reconnut le seuil de son immeuble. Elle l'avait raccompagnée chez elle un jour où Violette, qui n'avait pas de voiture, s'était approvisionnée en pinceaux, toiles et enduits. Violette se rendait habituellement dans un magasin de la banlieue sud, moins onéreux que les commerçants parisiens. Maud avait proposé de l'y conduire et l'avait ensuite déposée devant sa porte. Elle disposait alors des quantités nécessaires de couleurs, de brosses et de papier craft pour les 6 prochains mois. Les deux amies échangèrent des nouvelles. La réouverture de l'atelier était encore reportée. Elles s'inquiétaient. Elles espéraient que ce retard n'annonçait pas une fermeture définitive. « Et toi, comment vas-tu ? » demanda l'une avec un grand sourire. « Tout à fait bien, répondit l'autre, qui se réjouissait tout autant du heureux hasard de leur rencontre. Le fils de Violette était de retour à Paris. Il abandonnait son école d'ingénieur et s'orientait vers d'autres études. Il habitait de nouveau chez sa mère. Violette s'en réjouissait. Elle avait perdu son mari alors qu'elle n'avait pas plus de 30 ans. Elle avait élevé seule son fils unique et avait souffert pendant cette longue année d'être éloignée de lui. « Dis-moi ce que tu deviens, » demanda-t-elle. Maud ne savait par où commencer. Elle n'avait pas envie d'éluder la question. La communication étant, elle en a conscience, la grande affaire de sa vie. Elle essaie de ne pas laisser échapper une occasion de gagner en transparence. Elle lui confia ses dernières réflexions. Le soleil répandait une magnifique lumière d'été. Il caressait le visage des passants. Maud lui parla de sa navigation à la voile sur la côte de Kerbihan. Elle lui décrivit son bien-être là-bas, quand la forme effilée de l'étrave joue avec les vagues. Elle lui dit son espoir que les rollers sur les trottoirs de Paris lui soient tout aussi bénéfiques. Violette avait écouté, elle ne s'était pas moquée. Elle était debout, immobile sur le trottoir, au milieu du flot des passants qui la frôlaient ou la bousculaient, l'éloignaient ou la rapprochaient de Maud selon leur trajectoire du moment. Violette avait lu les livres de Maud. Elle avait commencé avec le récit de la vie de son père. Elle avait poursuivi avec l'évocation de ses angoisses quand Maud préparait son baccalauréat. Elle était à l'époque terrorisée par l'examen. Violette avait également lu ses volumes plus récents, qui dévoilaient ses péripéties conjugales et maternelles. Maud avait expliqué, Violette avait écouté. De ses lèvres et de ses yeux, elle souriait à Maud. « Mais c'est normal, lui dit-elle, que tu te sentes bien quand tu fais du bateau. Ce sont tes racines qui te rapprochent de ton enfance. Mais aussi, la voile, ne l'oublie pas, était l'un des liens puissants. Avec ton père. » Des gouttelettes de joie se répandirent, qui apaisèrent le cœur de Maud. « Ce n'est pas moi qui l'affirme, se dit-elle. C'est la vie de Violette, sa vision personnelle, extérieure, objective quasiment. Et donc mes déambulations dans ma tête, depuis la voile jusqu'au roller, en passant par la musique et les patins, mes tours, mes détours, mes circonvolutions, mes espoirs et mes projets ne sont sans doute pas si bizarres, pas si superficiels. Peut-être pas. » Elles s'embrassèrent, elles se dirent au revoir. Maud repartit, elle était enthousiaste et en forme. Elle trottina à grande vitesse jusqu'aux élégantes colonnes de la place de la Nation. Elle était éblouie, mais pas le moins du monde gênée par les rayons obliques du soleil qui lui faisait face en cette fin d'après-midi. Elle en savourait les tout derniers éclats. Huguette C. écrivit en 2010 le récit de son enfance. Maud avait aimé son livre. Elle devint amie. Le récit poétique, profond et généreux s'achevait par la quête de la mère biologique de l'auteur. Huguette avait entrepris cette recherche lorsqu'elle-même devenait mère. Une famille d'agriculteurs normands désignés par la DAS l'avait accueillie quand elle avait 3 ans. La vie était rude et les revenus modestes sur la petite exploitation. Grâce à son nouveau grand-père, qui prenait avec elle le temps de contempler le ciel, les fleurs et les arbres, grâce à sa nouvelle mère qui lui prodiguait soins et attention, elle eut le bonheur de découvrir la lumière des couleurs. Le titre de son récit, après la nuit, la lumière des couleurs, était explicite. Elle n'avait connu auparavant dans les internats de l'assistance publique que la seule nuit du désespoir. Maud s'était confiée à Huguette en 2013 au fil des mois de cette année où la tristesse avait inexorablement renforcé ses positions. Huguette savait la réconforter. Elle s'installait d'emblée sur le terrain de l'affection, comme elle lui aurait pris la main, ou bien comme l'aurait encouragée une maman, douce et consolante. Elle lui disait sa joie d'être au monde. Huguette lui disait son sourire du matin. Au lever du jour, la vie était belle. La nature la ravissait. Maud observait comment elle aimait ses 2 filles et ses petits-enfants. Huguette était alerte, toujours enthousiaste, à plus de 70 ans, pour participer à de nouveaux projets. « Je vais t'aider, » disait-elle à Maud, qui perdait peu à peu la bataille contre son infatigable ennemi. Toutes deux prévoyaient de se rencontrer pour écrire, mais elles n'y parvenaient pas. Elles étaient pourtant portées par une sincère bonne volonté qui les poussait à se retrouver chaque jour s'il l'eût fallu pour tenter d'empêcher l'inéluctable descente entamée par Maud. Elles étaient déterminées et pour l'amitié et pour l'écriture. Elles se donnaient des rendez-vous qui se trouvaient être annulés. Les trajets étaient compliqués pour Huguette. Maud lui proposait alors de passer chez elle, à Suresnes, dans sa nouvelle maison d'où l'on apercevait la silhouette de la tour Eiffel. Elle pouvait également, si Huguette préférait, la retrouver dans un café voisin. Huguette déclinait son offre. Était-elle gênée de voir Maud traverser tout Paris pour la rejoindre? Maud n'insistait pas, elle ne se voyait pas souvent. Maud nourrissait pourtant l'étrange sentiment que son amie était présente en elle, en pensée, dans son cœur sans doute. Maud se trouva contrainte à l'épreuve des faits de gagner en lucidité. Elle devint plus réaliste, elle se mit à compter avec la maladie de son amie. Au tout début de leur rencontre, Huguette lui avait confié que les médecins avaient diagnostiqué chez elle les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Elle prenait des médicaments, elle allait tous les jours à l'hôpital, rencontrait des psychologues, on espérait de la sorte lutter contre les progrès de la maladie. « Mais ça ne va pas, lui avait affirmé Maud. Tes médecins se trompent, ils font du zèle, c'est l'évidence. Impossible, lui avait-elle répété. Huguette était entreprenante, ses idées limpides, son esprit curieux et ouvert, son tempérament généreux, son caractère aimant et joyeux. Maud, quant à elle, manifestait parfois une réelle stupidité, comme par exemple lorsque l'état de santé de son beau-père lui permettait d'élaborer des pseudo-théories d'ordre médical. Son beau-père était, depuis qu'elle le connaissait, affligé d'un tempérament chagrin. Il s'appuyait sur d'inébranlables certitudes. Il n'accordait que peu de confiance à autrui ou à un avenir qui, selon lui, ne pouvait engendrer le moindre progrès. Pessimiste et campé sur ses positions, il s'enfonçait assurément dans cette même maladie. Maud n'avait dès lors pas éprouvé de scrupules pour en conclure qu'une personne comme Huguette, au tempérament exactement opposé, ne pouvait en aucun cas être victime de la même affection. Elle en était convaincue. À chacune de leurs rencontres, elle l'avait rassurée. Elle avait balayé d'un revers de main les importunes considérations de ces oiseaux de mauvais augure que sont parfois les médecins lorsqu'ils cèdent à leur penchant par trop scientiste. Ils ne s'arrêtent alors qu'aux protocoles et aux statistiques, ils en oublient de considérer la personne dans son ensemble, absolument unique, et qui ne saurait être réduite à un agrégat aussi sophistiqué et élaboré fut-il, de paramètres quantitatifs et de réactions chimiques. Mais Maud finit par comprendre. Les outrages de la maladie s'affirmaient. Huguette oubliait les rendez-vous, les dates et les lieux de rencontre. Elle errait dans d'inextricables forêts sombres et hostiles. Elle se perdait dans les marais de sa propre angoisse et celle de ses proches. Les relations téléphoniques devinrent difficiles. Huguette décrochait rarement. Son téléphone se dissimulait malencontreusement à ses regards. Maud laissait des messages. Si Huguette réussissait par chance à les écouter. Elle situait difficilement la date de l'appel. Elle voulait répondre sur l'heure. Souvent, elle n'y parvenait pas. Et la chronologie des événements se brouillait dès lors dans son esprit. Maud comprit. Elle ne l'ennuya plus. Elle cessa de lui proposer de nouveaux rendez-vous. Les appels téléphoniques lui compliquaient la vie. Maud l'abandonna à ses jours qu'elle vivait comme elle le pouvait. Son mari la soutenait, ainsi que sa fille aînée, mais non pas sa fille cadette, ombrageuse et constamment fâchée. C'était ainsi. Huguette ne pouvait qu'admettre le triste état de ses relations avec sa deuxième fille. Chloé avait pourtant été de ses deux enfants celle qui s'était montrée pendant des années la plus dépendante de sa mère, en constante demande de présence et d'encouragement. Leur relation était même devenue pour un temps de nature fusionnelle. Huguette l'avait soutenue autant qu'elle l'avait pu, bien plus que sa fille aînée, dont l'attitude fut, dès son plus jeune âge, délibérément autonome, distante même, aurait-on pu dire à l'époque, singulièrement équilibrée, pourrait-on conclure, des années plus tard. Chloé s'était ensuite mariée, elle était devenue mère de famille, et les relations avec sa propre mère avaient tourné à l'orage. Huguette se heurtait à une fille qu'elle trouvait centrée sur elle-même, imprévisible, intolérante. La mère et la fille n'habitaient pas la même banlieue, leur éloignement physique n'aurait été qu'anecdotique si elles avaient été proches en affection. Tel n'était pas le cas. La séparation fut consommée. La fille aînée d'Huguette, devenue adulte, s'était au contraire rapprochée de sa mère. Elle veillait, elle soutenait, elle participait. Elle était institutrice, passionnée par son métier. Elle avait 4 enfants, dont 3 d'un premier mari et 1/4 de son époux actuel. La famille comprenait aussi les grands-enfants de son mari. Sa vie était saturée d'animation, de mouvements, d'échanges, d'amour et de joie aussi. Maud et Huguette finirent, chacune, par suivre, malgré toute leur bonne volonté, leurs chemins respectifs. Elles s'éloignèrent, mais Maud ne l'oubliait pas. Et lorsqu'elle embarquait à Kerbillan sur son bateau, le souvenir de son amie se faisait plus précis encore. Elle se saisissait de la barre, elle bordait les coudes de grand voile, elle remontait dans la brise. Elle se sentait moins vulnérable, bien qu'elle ne fût utile à personne, bien qu'elle ne fournît aucun effort. Elle se contentait d'être au monde. Pendant les quelques 60 minutes qu'elle passait dans le vent et le soleil, les vagues se brisaient contre la fine et longue étrave. Maud pensait à Huguette. « Je suis comme elle, pareil, quand elle est en Normandie, dans son jardin, le jardin de son enfance. » Son amie lui avait raconté, l'automne dernier, ses mois d'été passés dans sa maison en Normandie. Elle avait pu acquérir la maison de sa famille d'accueil. Le matin, elle posait le pied dans son jardin. À l'exception des repas qu'elle prenait avec son mari, elle ne quittait pas son verger, ses fleurs, ses arbres et ses racines. Elle ne rentrait qu'à la nuit tombée. Son mari l'appelait. Il était tard, l'heure de se coucher, il finissait par s'inquiéter, où donc était-elle passée? Huguette était restée près de la terre. Elle s'était penchée, elle l'avait touchée, elle l'avait sentie, elle l'avait humée. « Je ne voyais pas le temps passer, disait-elle à Maud. Je ne demandais rien d'autre et j'y étais. C'était le bonheur. » Huguette racontait à Maud, qui enviait son amie. Quelques mois plus tard, Maud naviguait sur des flots saturés de lumière. Elle aussi avait trouvé son jardin, une minuscule partie de l'océan dans la baie de Kerbillan. C'était pourquoi elle avait tant insisté avant de rentrer sur Paris. Pour rien au monde, elle n'aurait abandonné sa quête avant d'avoir découvert qu'elle pourrait être dans la ville, son activité voilière, ou bien son jardin bien à elle. La métaphore l'enchantait.